stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la littérature. Cette émission est préparée par Raïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Spineau, Grégoire Diffior et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Victoria Asper. Réalisation Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Grégoire Leménager, Philippe Chevillier et Jean-Christophe Brianchon. À notre affiche, Tabataba de Patrick Deville, paru au Seuil. Underground Railroad de Colson Whitehead chez Albin Michel. Et Survivre de Frederica Amelia Finkelstein chez Gallimard l'Arpenteur. Présent également Boris Spineau qui va surveiller en direct le fil Twitter Dispute FC pour donner à entendre vos commentaires. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Le Concours de Claire Simon distribué par Blackout. Nous ouvrons cette dispute avec le nouvel opus de Patrick Deville, romancier aventureux, c'est un romancier finalement, ou un romancureux, aventureux, en tout cas il livre avec Tabataba, un livre un peu à part dans sa production, un livre qui figure dans la première sélection du prix Goncourt, à part parce que Patrick Deville a dit qu'il y pensait depuis 50 ans, lui qui en aura 60 à la fin de l'année. Autobiographie intime, regard sur le vaste monde et son histoire qui se croise donc tout au long de 400 et quelques pages du livre.
If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make a rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinks in rum and Coca-Cola go down Point Cumana. Both mother and daughter are working for the Yankee dollar.
Oh, it's a fact, Mom, it's a fact. From Chicka Chick Carry to Mona's Native girls all dance and smile. Help so just celebrate his leave and make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola.
On voudrait bien boire du rhum, avec modération bien sûr, avec un peu de Coca-Cola, ça ferait un Cuba Libre, hein, une boisson que j'affectionne, mais avec modération bien sûr. Premier tour de table, c'est Grégoire Leménager, nouveau disputeur attitré, hein, on s'était un petit peu aperçu en fin de saison dernière. Vous nous faites la joie de nous rejoindre pour cette 7e saison de la dispute. Donc à vous d'ouvrir le bal, Grégoire.
Pour parler de Tabataba de Patrick Deville, donc.
Oui, ce serait mieux.
Enfin, effectivement,
si vous avez un non, autre livre prévu.
Qui est effectivement assez, enfin, qui s'inscrit complètement dans la continuité de ses précédents livres, qu'il appelle des romans sans fiction. Il n'invente rien, il nous raconte des choses qui lui sont arrivées, au monde, enfin, qui sont des faits historiques, qui brassent, qui l'interconnectent, qui relient les uns aux autres, avec des intuitions qui souvent n'appartiennent qu'à lui. Et là, ce livre-là, à la fois s'inscrit dans le prolongement des autres, d'ailleurs, il y a plein de A dans le titre, Tabataba, il aime beaucoup les titres avec des A. Peste et choléra, Viva, Campuchea, Equatoria, voilà. Donc voilà, ça s'inscrit vraiment dans la continuité de tout ça. Et en même temps, ça les rassemble, ça reprend des thèmes qu'il a abordés dans les précédents livres, et ça les dépasse, ça les prolonge, ça les englobe. On a vraiment le sentiment d'avoir affaire à sa somme, quoi, un livre somme auquel il a voulu tout faire dialoguer. Et du coup, il y a beaucoup de choses dans le livre. Et c'est assez fascinant de ce point de vue. C'est-à-dire que il y a un livre extrêmement dense dans lequel à la fois comment être clair, quels sont les fils qui s'entrecroisent là-dedans.
Ils sont si nombreux.
Ouais. À la fois, il essaye de raconter l'histoire de sa famille. Je crois que c'est le fil narratif principal, en s'appuyant notamment sur des échanges de lettres qui ont eu lieu entre ses grands-parents, ses parents, des cousins, enfin voilà. Et il essaye de reconstituer l'histoire de sa famille, la manière dont sa famille a fini par atterrir à Saint-Nazaire, alors qu'elle n'était pas du tout originaire de Saint-Nazaire. Elle a fait quasiment le tour de France, enfin, en passant par plein de petites villes au long du XXe siècle, pour finalement atterrir à Saint-Nazaire, où lui-même a passé son enfance dans un lazaret qui avait été reconverti en hôpital psychiatrique. Et le livre s'ouvre là-dessus, sur de très belles évocations d'ailleurs. Et voilà. Et pour retracer l'histoire de cette famille, non seulement il se plonge dans les correspondances de ses aïeux, mais en plus il prend une passade grise, si je me souviens trop bon, et il refait le circuit. C'est-à-dire qu'il repasse par toutes les villes où ils ont habité, tout ça. Donc c'est aussi un tour de France, c'est aussi un voyage en France, dans la France d'aujourd'hui, qui nous décrit, il nous décrit les lieux, les bleds un peu à l'abandon, les traces que l'histoire a laissées dans ces endroits, notamment les traces d'événements violents comme les guerres. Mmh. Et voilà, donc il y a ça. Et puis enfin, il y a une troisième strate, c'est qu'il embarque aussi des vieux journaux d'époque pour inscrire l'histoire de sa famille dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde. Mmh. Avec toujours cette intuition chez lui que le monde a basculé en gros en 1860, que c'est le moment où on a percé le canal de Suez, c'est ça, et c'est le moment où c'est le début de la mondialisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, quoi. Et donc il interconnecte tout ça. Alors ça fait un livre qui est assez étonnant, dans lequel on se perd un peu quelquefois. Mais lui, ça lui fait pas peur de nous perdre. C'est pas un livre très commode, mais Patrick Deville n'a jamais prétendu être un garçon très très commode. Enfin, il m'est arrivé de le rencontrer, il est assez taciturne. Et son livre a un peu ce côté-là, un peu bougon, avec quelque chose d'assez narquois aussi. Il y a des pages dans lesquelles il y a pas mal d'humour. Il raconte qu'il doit son existence à l'éclatement d'un pneu un jour, qui a fait que ses parents se sont rencontrés, tout ça. Et puis, à travers tout ça, se faufile une réflexion sur ce que ça veut dire d'être français, finalement, puisqu'il a le... Par hasard, il se trouve être français. Et il rend hommage, d'une manière que je trouve très belle, très, très poignante, à des héros de la résistance, mais aussi à des héros très ordinaires qui se sont fait massacrer pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, et il trace tout ça d'une manière vraiment, vraiment singulière.
Voilà une belle introduction.
Ça va, voilà, j'ai essayé d'être le plus...
C'est bien, parce que sur un livre comme ça, ouais, c'était pas facile.
Non, c'est pas facile.
Pas facile. Hein. Patrick Deville, c'est vrai que c'est un écrivain singulier, mais qui trace une belle route. Moi, je m'étais un peu éloigné, j'avoue, peut-être un peu lassé de Patrick Deville. Et Peste et choléra en 2012 m'avait quand même mis face à cette évidence qu'il est quand même un de nos grands auteurs, à n'en pas douter, parce qu'il charrie, comme vous le disiez, c'est justement Gérard Le Ménager, non seulement son propre imaginaire, mais un imaginaire dans le réel. Enfin, il y a toujours ce mélange-là avec lui. Et là, à lire ses souvenirs, notamment de ce fameux lazaret où il grandit, on se dit que soit il est hypermnésique, ce qui est toujours possible, soit il y a quand même aussi une grande part de fiction dans ce qui nous est présenté comme la vérité, ce qui avec Deville ne serait pas si étonnant que cela, parce qu'il aime bien amêler les strates, effectivement, mais il y a ce matériau d'archives familiales, on n'a pas raconté l'histoire, peut-être que c'est Philippe Chevillier qui va le faire, je ne sais plus combien, 3 mètres cubes d'archives gardées par la grand-mère, des lettres, des journaux, effectivement, qui sont, alors pour Deville... Moi, je me suis demandé si c'était vrai, d'ailleurs. Parce qu'avec lui, j'ai quand même toujours le doute de savoir s'il nous raconte des blagues ou pas. Là, j'ai quand même l'impression que ce matériau existe bel et bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Chevillier?
Ah oui, je pense qu'il existe. Mais alors, me dites pas de raconter l'histoire, parce que la dernière fois...
Non, mais ça y est, c'est fait.
D'abord, c'est fait. Hein. La dernière fois, vous n'avez pas pu m'arrêter, parce que j'avais raconté tout le livre. Donc,
c'est vrai.
Mais ça, j'y arriverai pas. Alors, moi, c'est vrai que...
Ça va être dur.
C'est vrai que j'ai...
C'est le majordome qui a fait le coup. Voilà. Voilà, on s'arrêtera là.
Avec le chandelier. Mais c'est vrai que j'ai été bluffé par la performance littéraire. C'est un peu le livre des livres. quelque part. Mais le paradoxe, alors je trouve le concept génial, c'est-à-dire cette idée de mêler l'histoire petite et grande, d'avoir en fait cette mise en perspective à chaque fois de l'histoire des lieux qu'il va visiter, toutes ces petites anecdotes qu'il raconte, de les mettre en perspective avec la grande histoire, donc la mort de Staline, le jour où, etc., etc. Mais donc moi j'adore ce concept un peu de livre almanach, mais pourtant en ressenti, comme on dit que par rapport à un climat, je me suis beaucoup ennuyé en fait. Ah. Et je ne suis pas rentré dans le livre et j'étais très étonné, je me suis demandé pourquoi. Et je pense que le fait d'avoir tant d'entrées et de sorties, cette volonté en plus qu'il a de transformer l'intime, puisqu'il y a quand même cette base autobiographique, en un livre universel, on a l'impression que c'est presque trop ciselé, que c'est un et que l'histoire, les personnages et même les anecdotes sont étouffés par l'encyclopédie. À un moment donné, il raconte tellement d'histoires que j'avais presque peur que le héros prenne un verre en me disant il va nous raconter l'histoire des cristalleries d'arc ou quelque chose, parce que il raconte une série de petites notices tout le temps. Alors il y en a qui m'ont passionné, captivé, mais je trouve que à la fin j'ai eu du mal et ça c'est vraiment sincère, j'ai eu du mal à ressentir de l'émotion, j'ai eu du mal à entrer dans le livre, alors que les passages pris les uns après les autres, je les trouvais plutôt passionnants, mais l'ensemble, je trouve que ça m'a moi-même étouffé dans ma lecture.
Ah, étouffé. Jean-Christophe Brianchon.
Et moi, j'ai ressenti beaucoup de choses. J'ai trouvé ça très émouvant, au contraire. Et je pense, comme vous le disiez tout à l'heure, Arnaud, qu'on a certainement affaire à un de nos grands auteurs d'aujourd'hui. Ce qui m'a le plus plus ému, c'est le rapport que l'auteur entretient avec l'histoire. Alors évidemment, bon, l'histoire elle est omniprésente puisque c'est la petite dans la grande, avec l'histoire de ses individualités et de la grande histoire. Donc bon, mais le rapport que lui-même parvient à entretenir à cette histoire, et je trouve assez formidable, parce que comme il le dit, en fait on a l'impression d'avoir affaire à un combat entre l'auteur et l'histoire. Comme il le dit à un moment, il dit qu'il souhaite dévider la pelote née de l'histoire de la France et de l'islam depuis plus d'un siècle, jusqu'aux attentats de Charlie Hebdo. Je trouve ça superbe comme expression, dévider la pelote de l'histoire, et finalement c'est exactement ce qu'il fait. Il dévide cette pelote jusqu'à, dans un premier temps, entretenir un rapport à l'histoire qui est assez, on va dire, assez contrarié, puisqu'il la développe, il la montre comme quelque chose d'un peu surpuissant, une histoire qui étoufferait l'homme et qui nous empêcherait de tout, pour finalement aller vers quelque chose de tout à fait différent, puisque au fil de l'histoire, les protagonistes finissent par réellement s'ancrer dans leur histoire en refusant la grande histoire, et du coup il finit par montrer qu'il est possible de se défaire de l'histoire, d'aller vers ailleurs, d'aller vers autre chose, et voilà, tout ça dans un entrelac très très compliqué, je trouve, dans une construction dramaturgique quand même réellement complexe. Donc voilà, au fil de ce combat, finalement on voit que l'homme gagne, que l'homme survit et arrive à faire quelque chose, arrive à avancer. Et je trouve la vision de ce combat par cette écriture, je la trouve remarquable et très émouvante, moi.
Une interrogation via Twitter, Maurice Pinault.
Oui, Arnaud, sur Twitter, Clément M demande si, pour découvrir Patrick Deville, ce pourrait être une bonne idée de commencer par Tabac Tabac.
Parce que c'est un livre d'une série. Alors il se dit, est-ce que c'est le bon endroit ou le bon fil?
Moi, je Grégoire ne suis pas sûr.
Ouais, ouais.
Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr du tout.
On parle de l'actualité, des sorties.
Je suis pas sûr du tout. Je crois qu'il y a un livre de Patrick Deville par lequel il faut commencer, à mon avis, qui a d'ailleurs eu le prix Fémina, qui aurait sans doute pu ou dû avoir le prix Goncourt cette année-là, qui était Peste et choléra, qui pour le coup, c'est intéressant parce que je crois que Deville, avec Peste et choléra, il a montré qu'il était capable de faire, en gros, un roman d'aventure, donc il n'y a pas vraiment de fiction, mais un récit linéaire où on suit la trajectoire incroyable d'un type, d'un aventurier qui a un destin dingue, extrêmement intéressant, et on s'y perd pas dans ce livre-là. Il y a quelque chose de l'ordre d'une ligne droite d'un destin. Et donc il a montré qu'il savait le faire. Après, il a fait Viva, qui était une sorte de construction de vie parallèle entre Trotsky et Malcolm Lowry. C'était déjà un peu plus embrouillé, un peu plus compliqué.
J'avais un peu de mal.
Et là, il pousse encore plus loin ce fonctionnement. Il le dit, la page 115, il dit que lui, il est de toute façon obnubilé par les éphémérides, les coïncidences de dates et de lieux. Et donc, il essaye de s'affranchir de la linéarité du récit, de ce qui pourrait être une ligne claire. Et du coup, c'est vrai que ça rend le livre absolument passionnant quand on connaît un peu ce qu'il a fait avant. mais effectivement assez difficile à lire. Et je peux très bien entendre qu'il y ait des moments où on s'ennuie, parce que c'est comme un voyage un peu sinueux. Il y a des moments où on s'ennuie dans les voyages quand même. Mais du coup, les passages émouvants et les passages où, enfin, il y a des pages qui ressortent. Il y a beaucoup de relief dans le livre. Quoi. C'est un livre très accidenté, très voilà.
Philippe Chevrier, pour cette question. Vous êtes amateur des livres de Patrick Deville, en avez-vous beaucoup lu?
Moi, j'en ai pas lu
beaucoup,
parce que je lis beaucoup de.
Vous faites la littérature plutôt étrangère.
Sur le choix. Je pense, moi, en revanche, qu'on peut peut-être rentrer dans ce livre quand même, même si moi.
C'est une première fois pour Patrick Deville.
Oui, parce que. Mais c'est sûr qu'il faut s'armer un petit peu. Il faut prendre son temps. Et. Simplement, moi encore, j'en reviens à cette idée. Vous parlez d'éphémérides. Moi, j'avais envie justement d'un roman almanach qui soit d'une certaine façon pétillant à certains moments. Et je trouve qu'on est vraiment dans une recension qui est vraiment encyclopédique. On a vraiment l'impression d'un roman encyclopédique. Et je le retrouve dans le style aussi, qui par moments, je me dis, c'est marrant parce que c'est un style qui est au fond assez direct, assez simple, que certaines phrases un petit peu longues parfois, on sent qu'il y a une j'ai l'impression qu'on entre presque dans un système, c'est-à-dire que avoir voulu faire ce roman aussi immense, il arrive à faire quelque chose de presque trop compact et qui pourrait frôler une forme d'académisme, sauf que son académisme, ça serait sa propre académie.
Deville Académie.
Voilà, je reviens là-dessus, mais néanmoins il y a des personnages, le personnage du prof d'éducation physique, des moments au soleil, des rencontres, des brèves. C'est vrai que c'est très beau, mais à chaque fois, il y a une anecdote qui fait que tout d'un coup ce moment de beauté, je le perds. J'ai même pas l'impression, je ressens pas des fulgurances dedans, je ressens des petits moments comme ça qui ressortent et qui sont étouffés dans les archives qu'il a sorties de chez sa tante.
Voilà. La tante, oui, j'ai dit grand-mère tout à l'heure. Jean-Christophe Briançon, sur la question justement de la langue, de la construction, vous disiez-vous avoir ressenti de l'émotion. Ce que j'ai eu aussi, alors peut-être, elle est très présente dès le début du livre. Hein, vous l'avez évoqué, Grégoire Le Ménager, on commence par cette petite enfance où il se trouve qu'il a un problème physique qui l'oblige à rester immobilisé dans une coque.
C'est un des passages les plus drôles du livre.
Oui, mais en même temps...
C'est une enfance bizarre.
C'est une enfance bizarre au milieu des fous, dont le fameux ce fameux autiste qui répète toute la journée tabac, 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 Alexandra. Enfin bon, voilà, cette musique et cette langue en même temps. Donc on entre quand même par quelque chose de à la fois fort, émouvant, drôle, c'est vrai aussi, par la forme d'absurdité un peu noire qu'affectionne en effet Patrick Deville. Au-delà de ça, Jean-Christophe Briançon.
Moi, cette construction et cet ancrage dans l'histoire, je l'ai trouvé pas du tout ennuyeuse, ou en tout cas. Évidemment qu'il y a une forme d'ennui, mais qui fait réellement partie de l'expérience de lecteur. Je pense qu'il faudrait pas faire penser à nos auditeurs que le livre est seulement ennuyeux. Il est effectivement en partie ennuyeux.
J'ai pas dit ça. Hein.
Non, mais voilà. Parce que je pense que nous trois réunis, on peut finir par dégager cette impression. Mais je pense que ce n'est pas que ça. Et si c'est ça, en tout cas, ça fait réellement partie de l'expérience de lecteur. Et ça fait effectivement partie de ça du fait de son ancrage et de son désir de reprendre depuis 1860 quasiment chaque jour de l'histoire de France. Mais il le dit, son désir, c'était de décrire la simultanéité du monde, je crois, et de relier 1860 à Charlie Hebdo. Et bon, alors c'est compliqué, c'est évidemment un peu étouffant, mais c'est brillant. Alors, en l'occurrence, lui s'en sort vraiment brillamment. Et au-delà de ça, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a réellement un humour et un absurde dans ce livre qui nous permettent parfois de sortir de cet ennui et réellement de rire. Moi, ça m'a rappelé bien souvent certains passages de Jean-Philippe Toussaint, par la capacité qu'il a à certains moments de complètement s'extraire du réel en partant dans des digressions dont on ne sait exactement où elles vont arriver, et finalement, en l'espace de deux mots, de faire chuter sa digression d'un coup, en deux mots tout à fait absurdes, et jusqu'à rendre le propos très très drôle, alors que ça ne l'était pas du tout au départ. Et cette capacité-là à nous élever très haut et à d'un coup nous faire chuter, mais chuter dans un éclat de rire, je trouve que c'est réellement brillant en termes d'écriture, quoi.
Pas mieux, Grégoire Le Ménager, encore un mot sur Tabataba.
Non, pas tellement mieux. Moi, j'ai bien aimé aussi tous les textes qu'il cite, quoi. C'est-à-dire, alors les lettres de sa famille, il y en a beaucoup. Mais tous les textes de Victor Hugo sur la Commune, de Proust sur ce que c'est que d'être français, tout ça, il y a plein de textes vraiment formidables qu'il a allé repêcher, qui arrivent comme ça, comme des étoiles filantes à travers le livre, et ça marche très bien. Et puis enfin, il y a quelque chose qui sauve le livre, à mon avis, de l'ennui, de l'académisme et de toute forme de formalisme, c'est c'est l'investissement très personnel de Patrick Deville dans cette histoire. Mmh. C'est-à-dire qu'il est,
il n'a jamais été aussi loin dans l'intime, mais oui, et mais en même temps dans le regard sur le monde.
Pour un taiseux comme lui, il y a quelque chose de là, de l'ordre de l'exhibitionnisme.
Oui, quasiment pour lui.
Et,
oui.
Et en tout cas, ça rend vraiment le livre très, très touchant, très émouvant. L'hommage qu'il rend à son père, à son grand-père, c'est très... Ouais, moi je trouve ça fort.
Philippe Chevillier, pour terminer.
Alors moi qui n'ai pas été bouleversé, mais je peux dire, il y a une chose qui certainement, moi, me passionne et m'a captivé, que je reconnais de ce livre, c'est le fait d'arriver avec la saga familiale, qui est quand même un exercice extrêmement convenu, surtout dans la littérature française, d'arriver justement à l'étendre et d'en faire un roman monde, ça c'est quand même assez passionnant. Je regrette et je me dis, mais voilà, qu'est-ce qu'il m'aurait fallu à moi pour que je peut-être un peu moins de choses dedans, peut-être un peu plus de moments où il se serait lâché dans l'écriture, je sais pas, mais voilà, c'est quand même un ouvrage captivant, même si on s'ennuie un peu.
Captivant même si on s'ennuie. Enfin, un livre d'une grande ambition, en tout cas, c'est ce qu'on aura retenu tous les quatre avec des ressentis divers. Tabataba de Patrick Deville, publié donc aux éditions du Seuil, à suivre dans la dispute Colson Whitehead et Frederica Amalia Finkelstein. Si vous avez des avis à partager, on me commande de relire les précédents livres de Patrick Deville, je vais le faire. C'est bien la tante, signale Marie Freud, qui a laissé les 3 mètres cubes de documents, mais j'avais été corrigé par Philippe Chevillier. Donc si vous avez des avis à partager sur les livres dont nous allons parler maintenant, n'hésitez pas à le faire en suivant ce fil Twitter Dispute FC.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le deuxième livre au sommaire de cette dispute littérature ce soir, il n'est pas moins ample, c'est le moins qu'on puisse dire, pas moins ambitieux, Underground Railroad de Colson Whitehead, qui a obtenu le National Book Award en 2016, le prix Pulitzer Littérature 2017, rien que ça, et puis d'autres prix d'ailleurs depuis. Colson Whitehead, qui est né à New York en 1969, ses livres précédents, en premier lieu L'Intuitionniste, c'était en 2003, avaient tous été publiés chez Gallimard. Il a rejoint la collection Terre d'Amérique de Francis Geffard chez Albin Michel avec ce livre, qui nous replonge donc dans l'Amérique d'avant, un peu avant la guerre de sécession, pour suivre l'évasion, la cavale de Cora, une esclave de 16 ans, qui va donc emprunter l'Underground Railroad. Qu'est-ce que c'est que ça, ce chemin de fer souterrain, si on traduit littéralement, c'est ce réseau clandestin d'aide aux esclaves qui tentaient de rejoindre les États du Nord, où ils auraient été libres. J'ai lu quelque part qu'on évalue à 30 000, peut-être, le nombre d'esclaves qui auraient pu emprunter avec... évidemment, succès ou non, ce réseau, le roman, publié en France chez Albin Michel, est donc traduit par Serge Chauvin. Allez, on va commencer à suivre cette Underground Railroad avec Philippe Chevillier, en terre inconnue, on était en littérature étrangère, votre spécialité dans les colonnes des Échos. Philippe, pourquoi ce choix ?
Alors, c'est pas ça pourrait être parce qu'il a eu des tas de prix, le National Book Award, le prix Pulitzer. D'ailleurs, ça a été ce qui est assez intéressant, c'est que ce livre Colson Whitehead, quand il était chez Gallimard, il vendait pas beaucoup, et que tout d'un coup, il est passé chez Albin Michel, et puis il y a le bingo avec le prix Pulitzer, mais surtout un livre qui a par bien des côtés a évidemment passionné l'Amérique. On dit que c'est aussi un des livres qu'a adoré le président Obama, mais là, avec
si on faisait la liste est longue, à chaque fois qu'on nous dit
ça, bibliothèque entière.
Qu'est-ce qu'il faisait à la Maison Blanche? Il lisait. Voilà.
Des bons livres
généralement, oui.
En tout cas, c'est pas un livre à mon avis qui plaira beaucoup à Donald Trump. Mais donc ce livre raconte l'histoire de cet esclave qui s'échappe effectivement de sa plantation. Ce que je trouve passionnant dans ce livre, c'est un mélange d'hyperréalisme dans le récit. On a vraiment l'impression d'y être dans ces plantations avec la violence, la dureté, le sud, etc. Presque. Et en même temps, c'est un livre qui a une dimension fantastique puisque l'Underground Railroad était un réseau clandestin mais qui était essentiellement composé de routes, de petits chemins, éventuellement de voies ferrées, mais pas de voies ferrées souterraines. Et donc ce basculement à chaque fois que l'esclave arrive à s'échapper d'un catapan de quelque chose, elle passe par une grange et elle disparaît sur une voie ferrée, donne une dimension fantastique de roman d'aventure. Et alors ce roman d'aventure, on le retrouve parce qu'il y a des personnages très emblématiques comme celui du planteur qui est vraiment absolument diabolique, Terence Randall, qui est vraiment l'archétype du planteur du salaud. Et puis on a aussi...
Oui, l'archétype du salaud plus que du planteur. Hein. Bon.
du planteur de l'époque, hein, du planteur d'avant la guerre de sécession. Et de Ridgway, qui était le chasseur d'esclaves, donc qui va être comme une figure un petit peu comme dans la nuit du chasseur qui va poursuivre pendant tout le livre le personnage de l'esclave. Et donc il y a cette dimension de roman d'aventure et c'est écrit de manière en plus assez poétique. Et puis dans le même temps, petit à petit, par cette façon qu'elle a à chaque fois de passer dans un état en pensant que ça va aller mieux et de découvrir le racisme sous toutes ses formes, c'est un roman qui dit beaucoup sur les racines du racisme américain, les racines du mal. Et donc, quand elle est évidemment dans la plantation, n'en parlons pas, mais ensuite elle se retrouve, elle croit respirer quand elle passe en Caroline du Nord, je crois. Non, Caroline du Sud, pardon. Et là, elle est confrontée à des expériences médicales. Elle s'échappe, elle se retrouve en Caroline du Nord.
Mais là, vous racontez pas tout, Philippe. Hein.
Pas tout. Non. Mais là, on va être face à l'éradication.
Je vous connais.
On va être face à l'éradication au lynchage systématique. Et après, en Indiana, là où elle croit trouver enfin une communauté qui va la protéger, ça va mal se passer aussi. Donc, c'est tous ces blancs, tous ces petits blancs d'Amérique d'avant la guerre de sécession, on voit que le racisme est vraiment ancré. Et donc, je trouve que ce roman réussit dans une forme, en plus dans une écriture qui est assez flamboyante, assez poétique, à faire passer les choses dans une fiction qui est finalement une fiction totale et presque fantastique. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce livre.
Jean-Christophe Brianchon, premier regard sur cette Underground Railroad.
Alors, moi, globalement, c'est un livre qui m'a posé pas mal de problèmes, mais que pour autant, j'ai trouvé intéressant, entre autres, par rapport à ce que disait Philippe, dans la capacité qu'il a à partir du récit d'une histoire réelle, évidemment, à nous amener non seulement vers les racines de ce mal, mais aussi vers aujourd'hui. Et alors, évidemment, c'est le but c'est assez pensé, assez téléphoné, on va dire, mais pour autant, c'est quand même relativement bien fait, non seulement dans la construction du récit, mais aussi dans la manière de le dire, très concrètement, quand l'auteur parle à un moment de l'esclavage, en disant chaque nom était un investissement, un capital vivant, le profit fait cher. Bon, bah ça, voilà, évidemment, il y a quand même un moment où on peut retrouver un petit bout du monde d'aujourd'hui dans ces mots-là. Donc voilà, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était assez réussi. Après, moi, il m'a posé un petit problème dans sa forme de manichéisme, en quelque sorte, et encore une fois, comme pour Patrick Deville, dans le rapport que l'auteur entretient à l'histoire et à la possibilité ou non de s'en défaire. En l'occurrence, là, on a l'impression que l'histoire est, de la même façon que chez Deville, donc assez forte, très forte, écrasante. Mais, comme dans un bon page-turner à l'américaine, finalement, il y a l'histoire qui vous étouffe, et puis ensuite, les individualités qui la constituent, qui éventuellement vous permettent de vous défaire de cette histoire. Donc là, on est exactement, en tout cas selon moi, là-dedans, il y a les bons et les méchants, quoi. Alors, il y a non seulement ça, mais alors l'auteur étant quand même intelligent, on peut pas lui retirer ça, manifestement, il y a pensé, et donc le récit est construit de telle manière que alors il est construit en l'occurrence en différentes parties, chaque partie représentant soit un personnage de l'histoire, soit un lieu de l'histoire. Et donc cette construction-là lui permettra de se défaire de ce manichéisme-là, puisque en revenant dans chaque partie sur un personnage ou un des lieux de l'histoire, ça lui permet d'affiner un petit peu son propos, en disant oui, bah alors le méchant, en l'occurrence par exemple exemple le chasseur d'esclaves qui s'appelle Reed Jowen dans le livre. Alors il est méchant, mais finalement, pas tant que ça, évidemment, comme toujours. Et puis quand on revient dans les parties qui sont consacrées à des États américains en particulier, alors là, c'est pareil. Alors évidemment, c'est des États où l'esclavage est dur, où les mises à mort sont terribles, mais pour autant, il s'y passe quand même individuellement, à certains endroits, dans certains lieux, des choses qui sont belles et qui sont à conserver, qui font la grandeur éventuellement de l'Amérique, je sais pas. J'ai trouvé ce manichéisme et cette manière de s'en défaire à la fois assez habile et en même temps un peu décevante.
Bon, j'attends l'avis de Grégoire le Ménager, parce que moi j'ai pas encore lu ce livre. Alors avant de m'attaquer à ce pavé, j'attendais l'émission, je me suis dit ça va être plus sage. Bon, l'emploi du temps est un peu chargé, c'est la rentrée. Grégoire.
Oui, mais c'est le contraire de Patrick Deville. C'est autant Patrick Deville part un peu dans tous les sens, autant là on est sur des rails, quoi, si j'ose dire.
Ah, pardon, osez, allez-y.
Non, c'est vraiment le livre.
C'est une locomotive, vous voulez dire?
Non, j'allais passer sur un autre registre métaphorique. Je voulais dire, c'était le livre noir de l'Amérique. C'est un livre de combat. Enfin, c'est un grand roman militant qui traite d'un sujet extrêmement important dans un moment où le sujet est particulièrement sensible. Donc, il est très bienvenu et je comprends tout à fait le succès qu'il rencontre. C'est effectivement très bien fait. Et c'est effectivement un page-turner. D'ailleurs, il va être adapté en série télé. Ça va donner une série télé haletante. Et il y a quelque chose je comprends, mais il y a aussi quelque chose qui me gêne un petit peu dans cette fabrication d'un objet de... Ouais, qui est presque un objet de divertissement, quoi. Enfin, y a presque. C'est au service, encore une fois, d'une excellente cause, d'excellentes intentions. Et
instruisez-vous, prenez conscience en prenant quand même le plaisir de la lecture.
Oui, voilà. Et c'est pour ça que moi, les effets de brouillage avec le fantastique, tout ça, je suis pas absolument fan de ça. Je me souviens de tous les procès qu'on a fait à ce malheureux Tarantino, alors que Tarantino, lui, quand il exagère, il exagère carrément pour bien faire comprendre qu'il exagère. Lui, c'est pas tout à fait ça. Il y a quelque chose qui me semble très révélateur de sa démarche. C'est la première fois qu'elle prend le train, là, il y a quelqu'un qui lui dit « Ah, comme ça, tu vas traverser les États-Unis, tu vas voir le vrai visage de l'Amérique. » Et lui, il y a quelque chose comme ça. Il dit « Je vais vous montrer le vrai visage de l'Amérique, état par état, l'un après l'autre, avec quelque chose de très construit comme ça. » Et à un moment, elle travaille dans un musée qui représente des espèces de tableaux idéalisant l'esclavage, représentant l'histoire de l'Amérique de manière évidemment absurde et idéalisée. C'est évidemment des outils de propagande, ces tableaux. Lui, d'une certaine manière, il va construire d'autres images pieuses contre ces images pieuses-là. Il est là pour proposer une autre mythologie qui va affronter l'autre, qui va l'écraser et c'est vrai que là, il y a quelque chose qui est pas extrêmement subtil. C'est très efficace. Et puis moi, je suis plutôt sensible à tout ce qu'il raconte sur l'esclavage, parce que mais ça le pousse à aller loin. C'est-à-dire qu'il décrit la Caroline du Nord, je crois. Il nous montre ça. Enfin, c'est pas la Caroline du Nord qu'il nous montre. C'est des camps de concentration, quoi. C'est un univers complètement concentrationnaire. Il dit dans un entretien qu'il a pensé à Anne Frank quand il raconte le moment où elle se cache et tout ça. Et effectivement, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il veut aller vers quelque chose de mythologique, quoi. Donc il y a un symbolisme qui presque hollywoodien, quoi. Enfin, avec tout ce que ça suppose d'un peu lourdingue, d'un peu appuyé. Mais c'est très efficace et c'est très bien. Il faut le lire. Non, lisez-le, vous verrez.
Bon, attendez, j'ai pas encore fait tout à fait mon opinion. Il y avait une question à propos de série, Maurice Pino.
Oui, Lio Red sur Twitter qui demande s'il existe un lien avec la série Underground, qui est une série qui a été créée par Joe Bocaski et Misha Green en 2016, diffusée sur France Aug. Il s'agit effectivement du même
sujet. C'est la création de ce Railroad, Underground Railroad. Mais cette série, elle existe déjà. Mais s'il y en a une nouvelle d'après Colson Whitehead, ce sera une autre série qui prendra ce personnage de Cora. J'imagine qu'il va y avoir bataille pour interpréter ce rôle si la série se fait. Philippe Chevillier, répondait à ces attaques aimables.
Ce sont des réserves.
Moi,
je pense que le...
C'est odieux.
Je pense que l'aspect, justement, machine, en fait, derrière ces scènes qui nous présentent la vie dans le Sud, il y a c'est pas seulement Hollywood, c'est un peu des tableaux aussi qui sont un peu naïfs et il y a un vrai, je disais un style flamboyant poétique et qui fait qu'on est dans des images naïves. C'est vrai, c'est un livre militant et je pense que si les gens sont touchés par ce livre, c'est aussi par ça. C'est pas seulement parce qu'ils ont l'habitude que les romans américains soient bien construits, leur racontent des histoires. C'est parce qu'on a vraiment la réalité qu'on en a justement. Je savais pas l'histoire d'Anne Frank, mais j'y ai pensé quand elle est cachée dans une maison et qu'elle regarde la place où elle voit les lynchages, etc. C'est des images naïves, mais des images très fortes et qui marquent. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est sur le plan politique, ce qui est intéressant. Évidemment, ce que disait Jean-Christophe, c'est vraiment très important en ce moment parce qu'on est avec le Sud et Trump et le Trump qui valorise le Sud. Et une réhabilitation du Sud depuis longtemps, depuis autant d'emporte le vent, etc. Là, il a décidé justement de complètement lessiver tout ça et d'en présenter une vision, certes univoque, mais qui est intéressante. Et vous parliez de la dimension économique du profit. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est qu'on voit le basculement. Pourquoi, au fond, les gens se commencent à lyncher et presque éradiquer, devenir fascistes? C'est parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'à force d'avoir tant d'esclaves, il y a trop de noirs pour eux et qu'ils ont peur d'être submergés. Mmh. Et c'est le moment d'ailleurs où dans l'histoire,
c'est le grand remplacement.
C'est le grand remplacement.
Le grand remplacement. Comment il fait intervenir dans le roman les premiers Irlandais sans le sou qui viennent, qui sont payés presque rien, mais qui remplacent les esclaves noirs? Et ça, c'est raconté très simplement, en deux, trois images, et du coup, ça remet tout en place. C'est-à-dire que la mécanique du racisme américain, et on se dit, c'était il n'y a pas si longtemps, et du coup, ça nous remet tout ça en marche dans un roman qui se lit et qui est palpitant, qui est un page turner, je dirais pas le contraire. Ce mot que j'avais juré de plus employer, je l'emploie pour la dernière fois. Voilà.
C'est vrai, c'est promis, ça?
Je l'avais promis.
Vous aurez un gage si vous le réemployez.
Certainement.
Jean-Christophe Brianchon, dernier mot peut-être sur ce Underground Railroad?
Oui, non, mais comme le disait Grégoire et même Philippe, je pense qu'effectivement, de toute façon, c'est utile. Il est difficile de.
Bien sûr.
Mais je suis pas sûr qu'avec ce livre, on parle de littérature. En fait, je pense qu'on est face à un objet qui est un objet.
De la même façon que j'ai mis de grandes réserves sur 120 battements par minute sur sa forme cinématographique, on peut émettre des réserves sur la forme littéraire.
Mais je sais même pas si ça doit être considéré comme tel. On est quasiment face à un objet.
C'est un roman, il
sociétal.
Roman,
oui. Non, mais ça, on marque ce qu'on veut. Après, je sais pas. En tant que lecteur, en tant qu'expérience de lecteur, je suis pas sûr que ce soit la bonne approche de se dire bon, j'ai affaire à réellement un objet littéraire. Je pense que on peut le prendre comme étant le récit d'une histoire utile au service d'un lecteur. Et j'ai pas l'impression, malgré tout, alors bien que contrairement à ce que j'ai pu dire précédemment, je pense que tout de même, l'auteur attache une importance à son style de temps à autre, mais c'est tellement épars c'est tellement une fois de temps en temps que finalement on a l'impression que le reste du temps le mot n'est qu'au service du récit de cette histoire, et du coup je trouve qu'il en devient même compliqué de le critiquer à proprement parler puisqu'il est de toute façon utile.
Philippe Chevillet, vous voulez y ajouter?
Non, simplement, c'est peut-être un autre genre de littérature, mais je pense pas qu'on puisse dire, parce qu'en plus, on pourrait donner l'impression au lecteur que derrière le roman militant, c'est quelque chose d'un peu ascétique ou de c'est pas seulement militant, et donc il y a une façon d'être un conteur aussi, c'est la volonté de raconter des histoires. Moi j'aime bien cette puissance des Américains d'arriver à nous camper des personnages et des scènes en très peu de mots parce qu'ils ont intégré tout le cinéma, justement ce qu'on sait pas toujours faire. Je fais aucune comparaison avec les romans français, vraiment c'est pas mon but, mais je dis
mais quand même, au passage.
Non, c'est pas, surtout je pense pas du tout dans la
vous
comparaison avec De Ville ou tout ça, ça sera pas du tout dans mon esprit, mais je pense qu'il y a une rapidité et il y a quelque chose de littéraire dans cette façon de construire, de déconstruire très vite, d'intégrer du fantastique et surtout de faire comme si on ne sait plus si c'est de la fiction ou de la réalité. Et cet hyperréalisme qui est quand même de la fiction en même temps, c'est quand même un style. Il y a quand même quelque chose derrière, même si on peut trouver ça trop facile, mais c'est quand même de la littérature.
Mais Grégoire Le Ménager, dans l'Obs, c'est traité en page littérature, en page livre, mais en page société.
C'est ça qu'il faut remettre les choses où elles sont. C'est un roman engagé, donc qui pose les problèmes que posent les romans engagés. Et dans le genre du roman engagé, il a une force incontestable. Et tout ce qui fait sa force fait aussi sa limite, quoi. Mais
c'est une partie importante de la production littéraire pour sous réserve de ce que je vais lire quand je vais découvrir, mais à vous écouter, ça me fait penser à d'autres textes qui sont une partie de la littérature et même du patrimoine littéraire, des livres qui sont pour tous importants pas tant pour leur le brio de leur style ou la finesse de leur syntaxe, mais parce qu'ils ont un impact. À vous entendre, celui-ci en a un, à l'évidence.
Oui, il en a un, et je pense qu'il en a un, juste pour terminer, qui tient aussi à la grande intelligence, ce que vous disiez tout à l'heure, à la grande intelligence de l'auteur sur ces questions des origines de l'esclavage et des hantises, des points de fixation qui font qu'il y a du racisme. Quoi. C'est, ça, pour le coup, il les déterre très bien, je trouve, dans beaucoup de passages.
Bon, vous m'avez convaincu. Il va falloir que je trouve du temps maintenant. Je dis toujours, bon, ce sera pour l'été prochain. Il va rejoindre cette pile-là, pour moi, Underground Railroad de Colson Whitehead, qui paraît chez Albin Michel dans une traduction de Serge Chauvin.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Troisième sujet de cette dispute du jeudi soir, le deuxième livre de Frédérica Malia Finkelstein intitulé « Survivre » publié chez L'Arpenteur. Nous avions parlé dans cette émission, voilà, 3 ans déjà, du premier livre de la jeune auteure, aujourd'hui âgée de 26 ans. Le livre s'appelait « L'oubli ». Il avait été défendu à la fois par Jean-Marie Gustave Leclézio et par Frédéric Becbédé, ce qui en disait long sur son pouvoir de séduction, un mot qui est peut-être un peu péjoratif, mais alors même que le livre portait sur... le désarroi de l'auteur face au poids de la mémoire, singulièrement de la Shoah, dans sa propre vie de jeune femme. Survivre, cette fois, a été écrit en réaction, en contre-coup aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, notamment. Et l'auteur affronte là encore une matière extrêmement délicate.
Il y a une fille qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir.
Jean-Christophe Briançon, vous avez proposé ce livre au sommaire de cette dispute, Survivre de Frédérica Amalia Finkelstein, et pendant que nous écoutions Vincent Delerme, vous manifestiez votre doute, votre inquiétude d'être le seul à défendre ce texte. On pourrait partir de cette a priori que vous avez sur le fait que ce livre, vous allez le dire, on en a un petit peu parlé au bureau, vous a, vous, fait un effet fort, et pourquoi craignez-vous que ce ne soit pas partagé?
Alors, je crains, j'ai pas de certitude, hein. On va voir.
C'est bien, mais de façon générale, hein, n'en ayez pas.
Non.
Jamais.
Jamais.
S'il vous plaît.
J'en ai jamais.
Très bien. Continuez comme ça.
Alors, simplement, déjà, parce que c'est le livre d'après. Alors, d'après le Bataclan, évidemment, mais d'après l'oubli aussi, d'après son premier livre, qui lui-même avait déjà agrégé pas mal de critiques, puisque l'auteur s'était donc emparé de la nécessité ou non, ou de sa capacité ou non à oublier, ou à devoir oublier, en tout cas, l'histoire de la Shoah. On lui avait effectivement fait la critique de s'emparer de manière un petit peu opportuniste d'un sujet qui n'aurait pas dû ou n'était de toute façon de facto pas le sien. Je trouve que la critique avait été c'était un petit peu étrange de lui reprocher ça sur un objet littéraire.
Je vous suis absolument là-dessus.
Là, en l'occurrence, j'ai le sentiment, après en avoir parlé un petit peu autour de moi, que ce livre pourrait agréger à peu près les mêmes critiques, puisque exactement de la même façon que dans l'oubli, elle s'empare aussi d'une histoire qu'elle n'a pas vécue, puisqu'elle parle de l'attaque du Bataclan où elle n'était pas. Ce que je trouve, si on lui reproche ça, on peut, mais là, je trouve que en insistant justement et en adoptant la même position pour une deuxième fois, elle coupe court un petit peu aux critiques possibles, puisque justement là, elle nous démontre réellement qu'elle ne fait rien d'autre que de dépeindre en fait réellement le monde dans lequel elle est, à savoir un monde où de toute façon, alors effectivement ultra connecté, où l'image est partout, où l'information est partout, et où de toute façon, sans jamais rien vivre, on vit nécessairement tout. Donc là, le Bataclan, elle ne l'a pas vécu, mais dans le monde dans lequel on vit, elle a fini par le vivre. Et en l'occurrence, étant particulièrement sensible, elle a fini par le vivre de manière très douloureuse. Alors, sur un plan, sur un plan stylistique, c'est parfois lourd, souvent lourd, même très emphasé. Mais c'est exactement là où je trouve qu'elle a du charme, parce que à force d'emphase, elle finit par refléter exactement la jeunesse qui est la sienne, et au détour de certaines pages, réussir à produire des paragraphes ou à minima, en tout cas, des phrases qui moi resteront très très longtemps ancrées dans ma mémoire. Au-delà du style, en plus, elle parvient, je trouve, à nous obliger, à nous confronter à l'image du drame et à l'histoire du drame de manière assez dure, assez juste, en adoptant une position qui elle-même, qu'elle s'impose à elle-même, et qui est une position très dure, une position d'impossibilité de l'oubli, en tout cas de refus de l'oubli. Donc concrètement, c'est une jeune fille qui nous raconte qu'elle a appris par cœur le nom des victimes, qu'elle a tapissé les murs de sa chambre de leurs photographies, et qu'elle ne cesse de se les répéter, pour pas oublier elle, mais pour que le monde n'oublie pas. Et donc là, en nous imposant ça, en nous imposant cette posture, elle nous propose quelque chose de très fort, je trouve.
Alors, je me permets d'intervenir parce qu'il me semble en effet que Frederica Amelia Finkelstein a le mérite de se confronter à des questions qui sont très importantes, essentielles à notre époque. Et le fait qu'elle soit une très jeune femme, je pense, est également précieux parce qu'elle donne aussi à entendre, me semble-t-il, alors c'est toujours compliqué, mais la voix d'une certaine partie de sa génération, le fait que vous-même, Jean-Christophe Brianchon, à peine plus âgé qu'elle, y ait été sensible.
Non, mais
voilà, et je pense que c'est pas anodin. Alors, on va pas demander les états civils de Philippe Chevrier, Grégoire Le Ménager, ni le mien, mais disons qu'on n'est pas dans notre vingtaine. Allez, on peut dire ça assez facilement.
À peine plus.
C'est vrai que moi, j'ai trouvé très difficile à lire. J'en profite, tiens, pour me glisser là. Pas seulement pour les qualités littéraires qui sont peut-être discutables, on en discutera peut-être, mais pour ce qu'elle nous oblige effectivement à regarder en face. Je trouve qu'il y a une façon de décrire le quotidien. Ça commence par ce trajet en métro, où effectivement qu'on peut regarder ce qu'il y a sur les écrans des autres, et ce sont pas toujours des très très bonnes nouvelles. C'est vrai qu'on s'arrange quand même le plus souvent pour ne pas penser continuellement au risque terroriste, et que elle, bon, c'est le titre, hein, survivre, comment vivre après ça, voilà, elle nous oblige, en tout cas, le temps de ce court texte, hein, mais danse à sa façon, à n'être que là, ce qui est, je pense, pas inutile.
Et elle nous oblige à porter le poids du drame, quoi, le poids du drame qu'on refuse de mille manières, on y reviendra peut-être.
On va y revenir.
Là, elle nous y oblige.
Je poursuivrai plus tard, peut-être. Grégoire Le Ménager, sur ce survivre.
Ah. Oui, bah, effectivement, non, je ne reproche pas du tout une seconde de s'intéresser à ce sujet qui préoccupe 99% de ses compatriotes, donc c'est très bien. Elle fait comme si elle était la seule à avoir été traumatisée par cet événement et qu'elle naviguait au milieu d'une foule de bœufs.
Ah, vous l'avez lu comme ça,
bah, ouais. Oui, dire j'ai été traumatisé, oui, ça veut pas dire vous, bande de bœufs, vous ne l'avez pas été.
Mais comme si
non, mais ça m'intéresse,
comme
que
si
vous
le monde était comme... complètement indifférent à tout ça et qu'elle était la seule à se préoccuper. Bon, à la limite, peu importe. Mais je pense que, enfin, moi aussi j'ai été traumatisé par ça. Voilà, donc ça m'intéresse de savoir comment on vit quand on est traumatisé par ce truc qu'on a vécu par procuration, qu'on a vécu parce qu'on habite à côté, qu'on a vécu parce qu'on aurait pu y être et que, coup de chance, on n'y était pas, ou qu'on était à 500 mètres, enfin voilà. Donc tout ça, pas de problème avec ça. Le vrai problème, c'est qu'elle n'en fait absolument rien. C'est-à-dire qu'à part répéter ça à longueur de page, elle n'en fait rien. Le livre commence extrêmement mal. La première phrase, c'est « Je n'ai jamais cru à un monde meilleur, pourquoi pas, mais la violence que nous sommes en train de vivre, en France, en Europe, cette violence-là me tue. » Bon, dès la première phrase, on a envie de lui dire « Pardon, il s'est passé des choses violentes, il arrive qu'il y ait des choses violentes, mais globalement, en France, il s'est passé des choses pires. Et il y a des moments où il y a eu plus de violence. » Donc il y a presque quelque chose, je trouve, d'un peu obscène dans sa démarche. Vraiment.
Voilà, mais c'est là que vous...
Oui. Mais oui.
C'est exactement le même reproche qu'on lui avait fait pour son premier livre. C'est l'obscénité de sa posture.
C'est pas de parler de ce sujet-là, c'est de ne rien en faire. C'est-à-dire que
Ce qui aurait été intéressant, c'est de s'interroger de manière un peu plus approfondie sur le décalage qu'il y a entre son sentiment d'insécurité, qu'on peut comprendre, qu'on peut même éprouver par moments, et la réalité. Et elle le fait très peu. Elle l'effleure par moments quand ses grands-parents lui disent « Tu as de la chance, toi, tu vis dans un, tu n'as pas connu la guerre. » Bon. Mais hop, elle repart sur autre chose. Elle repart sur ses obsessions. Et il y a quelque chose d'un peu obscène. Le trajet en métro, pardon, c'est page combien ? Page 23, ça a commencé page 11, donc on n'a pas lu beaucoup. Trajet en métro, on atteint déjà le point Godwin. Tout de suite. Je vais bientôt sortir de ce wagon. Chaque fois qu'il y a foule dans un compartiment, je repense au wagon à bestiaux utilisé pour déporter des êtres humains il y a quelques années. Pardon, cette parenthèse n'était pas absolument indispensable.
Évidemment.
Et au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a... On a plutôt de l'empathie pour ce personnage qui parle. Je ne suis pas sûr que ce soit complètement elle qui parle. Il a écrit roman, il y a quelque chose d'un petit peu excessif quand même dans son intérêt pour les massacres. Donc on peut imaginer qu'elle a transfiguré ses propres cauchemars, qu'elle les a prêtés à un personnage. Et au bout d'un moment, on a plutôt de l'empathie pour ce personnage, mais il nous ennuie un peu comme quelqu'un qui effectivement va très très mal et nous a coincé dans un ascenseur et nous met à nous raconter sa vie, quoi. Il y a vraiment ce problème parce qu'elle n'en fait rien.
Philippe Chevillier, sur ce livre de Frédérica Malia Finkelstein.
Jean-Christophe avait la bonne intuition.
Ah. Alors, tout d'abord, j'ai été relativement plus pondéré, je vous fais remarquer.
Tout d'abord, c'est vrai que
j'ai
du mal avec les autofictions, les vraies fausses autofictions, puisqu'il y a une dimension romanesque. De toute façon, par principe, j'en ai un peu marre. Et là, je trouve que... Alors moi, c'est pareil, je ne reproche pas du tout le fait qu'elle se collette à ce problème des attentats. Et je pense qu'il y a une sincérité totale dans sa démarche. Mmh. En plus, je trouve que c'est pas mal écrit par moments. Donc, elle a une écriture, un talent. Mais j'ai l'impression qu'elle a eu ce sentiment d'urgence de vouloir écrire sur ces attentats. Et que... alors, est-ce que c'est possible de dire l'indicible, d'écrire l'indicible? Non, elle n'y est pas arrivée. C'est-à-dire qu'elle cherche son livre pendant tout le livre et qu'elle n'y arrive pas. Et d'ailleurs,
c'est ça qui est touchant. Enfin...
Oui, sauf que moi, je perds très vite. Puis alors, d'abord, je suis d'accord. Le démarrage, quand même, entre il y a du monde dans le métro et puis face aux soldats qui, à un moment donné, pointe son arme sans le faire exprès, lui dit ne m'humilie pas. Enfin, on a l'impression
que. Elle le pense intérieurement. Mais... Ça vous fait. Moi, chaque fois que je croise des militaires, depuis que les militaires se baladent dans les rues avec des armes, ça me.
Oui, mais
ça
on les croise. Hein.
On
les
croise. Un cœur sur ce plateau.
Oh. Non, mais je vais pas faire. En plus, on peut se dire que les militaires ils sont là pour quelque chose, mais au-delà de ça, on est tous concernés. On est tous, c'est-à-dire que cette douleur qu'on ressent et cette peur et cette insécurité, c'est pas seulement une question de génération. D'ailleurs, c'est tout le monde se sent concerné en ayant été près des lieux de l'attentat.
Mais c'est pas parce qu'elle dit je que
ce jeu-là est pas très bon au départ. Bon, voilà. Bon, mais j'arrête là-dessus parce que après, il y a une tentative. On rentre là presque dans le début d'un roman où justement où elle commence à décrire vraiment les attentats, à décrire la photo, à collectionner les photos, cette obsession d'Élise, des attentats, où on se dit ça va aller vers quelque chose. Et finalement, ça part un petit peu en quenouille parce qu'après, elle se met à parler tout d'un coup. Il y a une copine qui lui envoie une lettre de Bruxelles. Alors, elle a passé une semaine avec son petit ami, c'était formidable, mais elle va quand même très très mal. Et elle dit, ah mais oui, on est pareil. Et puis, elle ébauche le personnage en disant, on s'est rencontrés au lycée, mais c'est ébauché en deux, trois mots. Sa sœur aveugle, le personnage de la grand-mère. À la fin, on a peut-être ce qui fait aussi ce qui pourrait faire un livre ou une nouvelle, l'histoire du chauffeur de taxi argentin. Mais on a l'impression que le livre se cherche tout le temps. Et moi, alors pour le coup, je veux pas faire aller trouver les aphorismes qui m'ont agacé tout ça, mais j'ai l'impression que elle ne raconte rien que je ne sache déjà et que je ne sache rien et que je n'ai pas entendu et que je n'ai pas lu de la part justement de jeunes gens de son âge et de gens qui sont pas forcément jeunes mais qui aussi étaient dans des bars à proximité, etc. Je pense que je pense que ce livre il aboutit à rien. Ça m'a vraiment complètement laissé froid. Et ça, non, enfin, pas laissé froid parce que ça m'a agacé.
Comme. Bon, avant de finir par l'avocat de la défense, pour que je sois un tout petit peu plus juste, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne et ce que je ne comprends pas, c'est cette coexistence de l'ingénuité et de la lucidité. Enfin, il y a quelque chose, on se dit, elle voit ce qu'il y a à voir, alors peut-être... comme nous tous, plus ou moins, comme elle est obsessionnelle, en tout cas le personnage, elle en voit davantage. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une forme d'ingénuité qui est quand même assez troublante par moments.
Bah, il y a une ingénuité qui est celle de son âge et une lucidité qui est celle du monde qu'elle affronte.
Ça va, elle n'a pas 16 ans non plus, elle a 26 ans.
c'est jeune, je trouve. Enfin, pour s'attaquer à des sentiments pareils, une histoire pareille, je trouve ça assez jeune. Et évidemment que du coup, le livre ne peut être qu'une tentative, puisqu'a priori, il ne pouvait être qu'un échec, je pense.
Donc, c'est une belle formule.
Du coup, c'est une tentative.
Fort, hein.
Mais c'est une tentative pour moi qui rend l'œuvre encore plus touchante. Et moi, en particulier, alors c'est un point assez précis, et c'est peut-être un tropisme que j'ai moi, puisque je suis très intéressé par l'impact de l'image sur nos vies. Et en l'occurrence, elle nous met face à ce paradoxe de l'ultra-présence de l'image et à la fois en même temps de notre incapacité à voir. Elle le dit, alors du coup, elle essaye de tout voir et elle dit donc j'ai avalé les images les unes après les autres, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors en soi, dire ça, c'est pas grand-chose, mais ça rentre en résonance avec plein de choses que des gens ont dit avant, évidemment, et de manière peut-être plus intelligente. Moi, ça m'a rappelé une phrase de Godard dans Histoire de cinéma quand il dit même rayé à mort, un simple rectangle de 35 mm sauve l'honneur de tout le réel. Et ben elle se situe exactement là, elle se situe à cet endroit-là et elle prouve qu'on peut faire de nos vies, qu'on peut faire de cette théorie nos vies. Et je trouve ça très beau.
Survivre de Frederica Amalia Finkelstein.
Amalia.
Oui.
On ne va pas en plus écorcher son nom.
Ouais, je l'ai dit plusieurs fois, moi, contrairement à vous. C'est bien important de dire le nom des auteurs, dire que c'est l'Arpenteur qui publie ce roman, ce texte, Survivre. Avant de conclure l'émission, le jeu de la dispute, on commence par un rappel du jeu d'hier au soir avec Grégoire Di Fiore qui va nous rappeler la question qui était posée.
Quel est le titre du précédent film réalisé par le documentariste Claude Lanzmann?
Et la réponse était...
Le dernier des injustes.
On va parler demain de Napalm. A gagné ce soir des DVD du film Le Concours de Claire Simon, distribué par Blackout. Quelle est la question, Grégoire?
Dans les anciens studios de quelle société de production et de distribution les locaux de la Fémis sont situés?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de demain à poster sur la page Facebook La Dispute FC dès maintenant. Vous pouvez aussi attendre le direct pour réagir via Twitter. Demain, donc, cinéma dans La Dispute, en compagnie de Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Julien Gester, dès 19h pour parler de Barbara, de Mathieu Amalric, Napalm, de Claude Lanzmann et Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc, de Bruno Dumont.